Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
Deuxième entretien cette semaine, des clés pour vivre avec pour témoin Isabelle Mordant. Bonjour Isabelle.
Bonjour Nathalie.
Alors on vous découvre en tant qu'auteur puisque vous avez écrit un livre qui représente un petit l'histoire, une histoire de famille, votre histoire et en particulier l'histoire aussi de Thomas qui aujourd'hui est un jeune homme de 23 ans, l'histoire de votre époux Paul et c'est aussi l'histoire de Pierre, votre deuxième fils âgé de 21 ans. Vous avez 24 ans de mariage. On parle tout au long de la semaine au fond et au cœur, et on peut saluer Thomas, de cette maladie et de l'handicap. Je vous propose dans ce deuxième entretien de revenir sur cette jeune maman, car vous étiez une jeune maman à l'époque. Vous expérimentez cette terrible violence au fond de tous les aspects de la maladie que vous allez au fil du temps finalement découvrir. On n'apprivoise pas la maladie du jour au lendemain. On imagine bien, je m'imagine bien, je veux bien croire que quand on est une jeune maman, jeune épouse avec un premier enfant, l'irruption finalement d'une telle violence, car vous parlez de violence, même hors antenne, vous me parliez de cette maladie qui n'est pas au départ reçue, réceptionnée comme un cadeau. C'est violent.
Oui, bien c'est sûr terrifiant. Que c'est violent. Cette maladie, c'est donc une fragilité osseuse immense qui se caractérise par des fractures spontanées.
C'est la maladie des os de verre.
C'est la maladie des os de verre que les médecins appellent plutôt ostéogenèse imparfaite et que Thomas a sous une forme extrêmement sévère et évolutive. Alors, c'est une maladie très rare. Et quand nous avons appris, il y a un peu plus de 22 ans, la maladie de Thomas, on n'avait pas accès, comme aujourd'hui, à toutes les informations qu'on veut sur Internet. Et donc, j'ai acheté le livre qui était édité par l'association de malades de cette maladie, qui regroupe toutes les informations qu'on connaissait à l'époque sur cette maladie, qui décrit tous les aspects de la maladie. Alors évidemment, ça parle des fractures, ça parle de la douleur des fractures, parce que les fractures, ça fait mal, et c'est pas parce qu'on s'en fait tous les jours ou tous les deux jours que ça fait moins mal. Ça parle des attelles, des plates pour soigner, et puis ça parle de tout le reste qu'on n'imagine pas forcément quand on pense juste à une fracture de ski, par exemple, les tractions, les opérations chirurgicales très lourdes, les séjours en centre de rééducation, les complications de la maladie, des complications hémorragiques, des complications cardiaques, des complications dentaires, la petite taille, la scoliose, le corset, le fauteuil roulant. J'en oublie.
Certainement. La liste est considérable.
La liste est considérable. C'est... Quand une jeune maman lit ça, et alors qu'elle vient d'apprendre que son bébé est atteint de cette maladie, c'est évidemment un choc extrêmement violent. J'ajoute quand même dans la liste les mécanismes de transmission génétique de cette maladie. Et il se trouve qu'à l'époque, j'étais enceinte de mon second enfant, donc pour lequel je pouvais craindre qu'il soit lui aussi atteint de la maladie. Oui, c'est extrêmement violent. Alors moi, j'admire beaucoup les gens qui accueillent l'épreuve avec foi, avec confiance, avec sérénité.
Je crois que vous avez un message à passer. Allez jusqu'au bout.
Mais je ne suis pas du tout comme ça.
C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez être un peu plus précise autour de vous, vous avez des personnes qui ont peut-être un peu le même épisode que vous autour de l'irruption de la maladie, mais qui vivent cette irruption de la maladie différemment, comme un cadeau du ciel.
Un cadeau du ciel, j'irai pas jusque-là. Pas un cadeau du ciel, mais quelque chose de... voilà, c'est le destin, des gens qui accueillent ça... avec un certain fatalisme et en étant sûr d'emblée qu'ils vont être capables d'y faire face. Moi, j'étais pas du tout sûre d'y faire face. Moi, j'avais eu une vie très facile, très protégée auparavant. Quand Thomas est né, la vie se déroulait comme un tapis rouge sous mes pieds. Je m'attendais pas du tout à ça. Et cette maladie, c'était le grain de sable qui venait tout faire dérailler. Moi, j'ai vécu ça. J'en suis pas très fière, mais je l'ai vécu comme une catastrophe.
Vous êtes révoltée?
Oui, je me suis révoltée. Alors,
à quel moment vous avez perçu un peu cet état de révolté, de colère en vous?
En fait, pas au moment. Alors, au moment où on a appris la maladie de Thomas, on s'est demandé, mon mari, enfin en tout cas, je veux pas parler pour lui, mais moi, je me suis demandé pourquoi ça nous arrive à nous. Pourquoi, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'était vraiment ce que je ressentais à l'époque. Et puis, un peu plus tard, Thomas est allé dans un centre de rééducation pendant plusieurs mois. Je l'ai accompagné, j'y ai vécu, j'étais logée avec lui, j'étais encore enceinte de mon deuxième enfant. Dans ce centre, j'ai découvert plein d'autres enfants dans un service de pédiatrie. Je vivais dans ce service de pédiatrie toute la journée et j'y dormais aussi, au milieu de tous ces enfants qui étaient atteints de pathologies effroyables, de choses extrêmement lourdes que j'avais jamais rencontrées avant. C'était plus tellement le problème de « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné moi ?» C'était d'un seul coup une question beaucoup plus universelle, à savoir le scandale de la souffrance, et encore plus quand il s'agit d'enfants innocents, purs. Voilà.
Au fond, c'est la grande question du mal.
Oui. Devant cette grande question, oui, j'ai été révoltée, parce qu'un scandale, c'est révoltant, c'est injuste, c'est inexplicable et c'est révoltant. Donc oui, j'ai été en colère contre Dieu.
Cette colère a duré longtemps ?
Oui, elle a duré plusieurs années. Elle a duré plusieurs années pendant lesquelles je me suis éloignée. Voilà, quand Thomas était dans ce centre de rééducation, à un moment, c'était la période de Noël, je suis rentrée dans une église, il y avait la crèche. Alors, c'était Noël, la fête, la joie, la famille, la vie nouvelle qui commence avec toute l'espérance que ça comporte. C'était à milieu de mon état d'esprit. Et devant la crèche, j'ai dit au bon Dieu, Seigneur, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce que tu fais, je ne comprends pas ce que tu veux. Je suis très... Voilà, c'est cette souffrance, pas seulement la mienne, hein, ce mal qui existe, c'est un obstacle à ma foi, c'est un obstacle à mon intelligence. Et je ne veux pas blasphémer, je ne veux pas demander de compte, je ne veux pas dire dans ma prière ou penser des choses que je regretterais, alors je préfère m'éloigner. Et donc, je suis sortie doucement, j'ai fermé doucement la porte de l'église, je n'ai pas claqué la porte, mais j'ai préféré m'éloigner et prendre du temps. Pas de comprendre, parce que je n'ai toujours pas compris hein, pourquoi le mal existe, mais le temps d'une forme d'apaisement et d'un certain recul qui me permette de revenir. Voilà.
Et vous revenez ?
Oui.
Oui. Vous avez ouvert, est-ce qu'on peut vous demander avec délicatesse, bienveillance, sans faire une intrusion dans votre vie intime et votre vie de foi entre vous et Dieu, cette porte que vous aviez fermée un soir de Noël, délicatement, vous avez pu la réouvrir à quel moment et comment ? Un événement particulier ?
Non, ça n'a pas été une fulgurance, ça a été progressif. Alors ça, je suis restée éloignée de l'Église, de Dieu, de l'Eucharistie,
des sacrements
de l'Église. J'ai vraiment pris de la distance pendant 10 ans, une dizaine d'années. Je me suis rapprochée par des rencontres, des discussions avec des personnes qui m'ont ouvert des portes, des perspectives, qui n'ont pas répondu à mes questions, mais qui m'ont donné des pistes, des images.
Des clés.
Et puis par Thomas aussi, parce que Thomas, lui, il a la foi. Vu que moi, je m'étais beaucoup éloignée de l'Église et que mon mari n'est pas pratiquant, cette foi, elle lui est venue de manière assez spontanée. Alors en fait, parce que Thomas, c'est un petit garçon très intelligent, qui savait lire à 3 ans et demi,
très précoce,
qui faisait tout,
vous en
très
parlez, précoce. Vous décrivez très bien ce
parcours.
Et donc,
parmi tout ce qu'il a lu, parmi tout ce qui l'intéressait, puisque tout l'intéresse, il avait lu la Bible, donc il me posait plein de questions, donc je me suis dit qu'il fallait absolument que je relise la Bible, enfin que je la lise d'ailleurs, parce que je ne l'avais jamais lue. lui, qui est un garçon très, très consciencieux, quand il lit quelque chose, c'est de la première à la dernière page. Bref, Thomas avait tout un questionnement et surtout toute une foi naturelle, spontanée, qui, moi, m'a interpellée.
Il vous a questionné.
Je me suis dit, mais si lui, il croit, moi, il faut que je croie aussi. C'est pas possible autrement. Thomas m'a ouvert une autre façon de croire, une autre façon de prier. Parce que Thomas, lui... Je l'ai écrit dans mon livre, donc je pense que je peux le dire sans sans trahir un secret.
Et on sait Thomas qui vous écoute.
Voilà, mon cher Thomas, merci pour tout ce que tu m'apportes. Tu me fais grandir tous les jours. Thomas, quand il prie, il commence par rendre grâce, alors que dans l'état physique dans lequel il aurait toutes les raisons de se plaindre. Il demande jamais rien pour lui-même, et par contre, il demande tout pour les autres, et il a une liste d'intentions de prière qui grandit de jour en jour. Et je trouve que c'est une leçon de prière, en fait, qui, moi, m'a ramenée à la foi.
Alors, on pense à Thomas, hein. On aimerait tant que Thomas soit aussi à vos côtés.
Mais Thomas va bien, il est à la maison avec son papa qui s'occupe très soigneusement de lui.
Et peut-être une écriture à deux, mère et fils, dans un prochain livre.
Thomas, hein. C'est un mathématicien, donc je ne suis pas sûre que la littérature...
Mais il lit.
Je ne suis pas sûre qu'il écrive autre chose que des mathématiques.
Alors Isabelle Mordant, auteur de ce livre qui est au cœur finalement de la vie, et c'est le cœur, c'est l'histoire aussi que vous vivez aujourd'hui avec Thomas, Pierre et votre époux Paul, Mystère de fragilité, ce livre qui retrace en fait ces 20 ans de parcours. On peut se le procurer aux éditions du Cerf. Très beau témoignage, et nous avons le bonheur aussi de vous accueillir dans cette émission pour entendre la parole d'une femme, d'une épouse et d'une mère. À demain à la même heure.